Ce matin, on va être dans le thème de la mission. Et l'idée, c'est de nous encourager à être présents, à être des missionnaires partout où nous sommes, tout le temps. Est-ce que vous avez déjà pris votre voiture sans savoir où aller? Sans aucune direction, sans aucun but, juste rouler pour rouler. Connaissant votre envie de perdre votre temps, je ne pense pas. Nous sommes des missionnaires pour Dieu. Dieu nous a envoyés dans le monde pour être à son service. Il nous a donné une mission, un ordre, des commandements. Quel est l'objectif, la grande mission du chrétien? Dans quel but? Dieu nous sauve. Dieu vous sauve. Dans quel but? Vous allez nous répéter le Matthieu 28, faire de toutes les nations des disciples, blablabla, blablabla. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous avez déjà fait le point en fin de semaine pour mesurer le temps que vous avez passé à répondre à cette heure de mission, si vous le connaissez par cœur? Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est ça? Notre vie de chrétien, comme je le disais un peu tout à l'heure, ne se résume pas forcément à ce que nous pouvons vivre ici dimanche matin, à un culte, à prier, à chanter, et puis, raison de la semaine, à lire notre Bible. Non. Notre mission en tant que chrétien, c'est de répandre, de transpirer qui est Dieu à travers nous. C'est ça notre but, notre mission. Notre mission en tant que chrétien est de réconcilier le monde avec Dieu. C'est Paul qui dira ça aux Colossiens. Ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder différentes missions, les missions des croyants dans l'Ancien Testament, regarder la mission qu'avait Jésus, la mission d'Adam et Ève, la mission de Dieu, et qu'est-ce que ça donne en pratique. Dans l'Ancien Testament, quelle était la mission du peuple? Dieu s'est constitué une mission, un peuple qui est là pour l'adorer, pour qu'il montre qui est Dieu, pour pointer du doigt Dieu. Un peuple qui fasse connaître Dieu par ses comportements et ses agissements. Et quand vous lisez les prophètes dans l'Ancien Testament, donc tout ce qui est à la page, tout ce qui est deux tiers de la Bible en fait, à chaque fois que Dieu reproche quelque chose à son peuple, là on peut voir qu'ils ont fait quelque chose de mal. Forcément, c'est un reproche. Et je vous propose de regarder Ézéchiel comme titre d'exemple. Ézéchiel 36, 17 à 21. Je ne veux pas m'attarder sur le pourquoi il dit ça, est-ce que Dieu est méchant, blablabla. C'est pas le mot du jour, le blablabla. Mais plutôt de regarder qu'est-ce que Dieu, à la fin, le reproche. Et je vous propose Ézéchiel 36, des versets 17 à 21. Il va dire, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, « Fils d'homme, lorsque les gens de la communauté d'Israël habitaient dans leur propre pays, ils ont souillé, par leur manière de vivre et leurs actes, leur conduite était en effet aussi impure à mes yeux que l'impureté menstruelle. J'ai répandu ma fureur contre eux à cause des crimes qu'ils ont commis dans le pays et parce qu'ils ont souillé leur pays par leurs idoles infâmes. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai condamnés comme le méritaient leur conduite et leurs actes. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les nations parmi lesquelles ils ont été bannis, ils m'ont déshonoré. Moi qui suis saint. En effet, on disait à leur sujet, ces gens-là sont le peuple de l'Éternel. Mais ils ont dû sortir de son pays. Alors j'ai eu égard à ma sainte personne et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que la communauté d'Israël a déshonoré parmi les nations où elle s'est rendue. Dieu leur fait deux reproches. D'une part, d'avoir commis des crimes, d'avoir vécu de manière dissolue ou de manière, par leur manière de vivre, par leur adoration à d'autres dieux et parce qu'ils ont déshonoré le nom de l'Éternel, parce qu'ils ont souillé son saint nom. Dieu répond au verset 21 en disant « J'ai eu égard à ma sainte personne, c'est pour ça que j'ai agi. » Parce qu'il devait être une bénédiction pour les nations, et ils ont souillé mon nom. Un peu plus loin, voici ce que dit l'Éternel. Le jour où je purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes et le rebâtira ce qui est en ruine. Au lieu d'offrir l'image de la désolation à tous les passants, la terre dévastée sera de nouveau cultivée et l'on dira « Voyez-vous ce pays, jadis dévasté, est devenu comme un jardin d'Éden et les villes dévastées démolies, qui n'étaient plus que des ruines, sont à présent restaurées et repeuplées. » Alors les nations qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui ai rebâti ce qui était démoli et replanté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, je l'ai promis et je le réaliserai. Une fois encore, je me laisserai réfléchir par la communauté d'Israël pour agir en sa faveur. Je les multiplierai comme un troupeau d'hommes. Les villes aujourd'hui en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, tout comme Jérusalem qui, lors de ses fêtes cultuelles, fourmille d'animaux consacrés, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Le peuple n'a pas fait la mission que Dieu lui avait confiée, d'être une lumière pour le monde. Il devait être une source de bénédiction pour le monde, pour les peuples autour d'eux. Ils devaient, par leur manière de vivre, montrer que Dieu était différent et que Dieu, le Dieu Yahweh, était le grand Dieu. Ils n'ont pas réussi. En ce qui concerne Jésus, le Messie, Jésus, devait venir pour incarner dans sa propre personne l'identité et la mission du peuple d'Israël en étant leur représentant, leur roi, leur conducteur et leur sauveur. C'est par le Messie, l'agent oint de Dieu, le Dieu d'Israël, qui réaliserait le dessein qu'il avait conçu pour Israël. Jésus était le représentant suprême pour le peuple d'Israël. Il était là pour rendre, pour mettre la lumière dans le monde, la lumière des nations. C'était là, par Jésus, que le monde aurait une source de bénédiction. Le vecteur de bénédiction rédemptrice de Dieu pour toutes les nations du monde, tel que Dieu l'avait promis à l'origine dans les termes de l'alliance avec Abraham. Et quand vous allez lire le Nouveau Testament, vous allez trouver des versets un peu comme ça, ou comme je le citais tout à l'heure, que la mission de Jésus, c'est de réconcilier le monde avec le Père, par son sang. La mission de Jésus, sa volonté, c'est de faire ce que le Père lui a commandé. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et à ce moment-là, je le reciterai le dernier jour, au dernier jour. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ce que lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Le but de Jésus est vraiment de pointer du doigt la réconciliation avec le Père, par son sang. La mission de Jésus est de rétablir cette relation avec le Père. Jésus qui est l'image parfaite de Dieu, le Père. Et c'est ce que dira Jésus à travers les évangiles et surtout à travers l'évangile de Jean et ses épîtres. Celui qui a vu le Fils a vu le Père, dira Jésus. Celui qui renie le Fils renie le Père, dit Jésus. Juste une remarque. Jésus avait une mission. Mais est-ce qu'il a accompli une checklist? Est-ce que c'était, ok, j'ai un ordre de mission, ok, je dois faire ça, sinon mon Père ne va pas être content. Est-ce que Jésus a agi comme ça? Non. En parcourant les évangiles, j'ai été assez surpris de voir qu'à chaque fois, ou très souvent, quand Jésus agit, c'est marqué qu'il agit par amour ou parce qu'il est ému de compassion. Il n'agit pas juste pour respecter un commandement. Il a agi parce que le peuple était perdu, sans berger. Il avait un fardeau trop lourd sur ses épaules. Il voyait que les gens étaient sans guide, perdus dans le brouillard au gré des vents, comme dira le chant. Dieu le Fils est venu jusqu'à nous. Il s'abaisse pour se mettre à notre portée. Jésus est venu nous écouter, nous comprendre, nous soutenir, vivre avec nous, rétablir la relation avec le Père, mourir pour nos péchés, être sacrifié sur une croix. C'est une des spécificités du christianisme. Aucune autre religion dans le monde nous parle d'un Dieu qui souhaite être en relation personnelle avec nous. avec nous, les hommes. Dans d'autres religions, vous trouverez un Dieu qui souhaite impacter les commandements, qu'un peuple qui le respecte. Mais dans aucune autre religion, vous verrez un Dieu qui souhaite être en relation, en communication avec nous. Dieu le Père, par amour et pas pour son ego, souhaite être en relation avec nous, souhaite une relation avec nous et souhaite que le monde entier soit en relation avec lui. Jésus s'est donné entièrement pour accomplir cette mission. Le peuple d'Israël, c'était ce but d'être mis à part pour accomplir aussi cette mission. Adam et Ève, quel était leur but? Pourquoi ils ont été créés? Dieu les a créés à son image et va leur donner cet ordre de prendre soin de la création, de la protéger, de la garder, de la faire fructifier, de remplir la terre. Dieu leur a donné une mission qui était la sienne. En tout cas, à partager sa mission avec Adam et Ève. Dans une entreprise, la personne qui gère l'entreprise, c'est le patron, ou des délégués, ou des représentants. Dieu a délégué sa création à Adam et Ève, Dieu étant le patron et l'homme son représentant. Il est clair que le représentant doit suivre les règles du patron, de Dieu. L'homme doit gérer, cultiver, garder, protéger, développer la terre comme Dieu le ferait. Dieu avait donné cette responsabilité. Dieu avait mis l'homme à des positions différentes par rapport au reste de la création pour montrer que c'était lui qui était Dieu. Et Henri Blocher, dans son livre « Révélation des origines », nous rappelle, nous met une mise en garde, qu'une image n'est qu'une image. L'image n'est pas l'original. L'image n'est rien sans l'original. Que l'homme soit l'image souligne la radicalité de sa dépendance. Quand nous agissons, quand le peuple de Dieu agit, ce n'est pas pour se glorifier, mais c'est pour glorifier Dieu. Nous sommes que des représentants, des intendants de la grâce de Dieu. C'est envers Dieu que nous devons l'adoration, c'est vers Jésus que nous vous devons pointer, et non envers notre Église, envers nous-mêmes, envers notre gloire. C'est pour ça que dans l'Exode, il est question que Dieu dit au peuple, vous ne vous ferez pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, Exode 24. Non, parce que nous sommes déjà des représentants de Dieu. Nous sommes déjà des images de Dieu. La question c'est, que faisons-nous avec l'image que nous sommes de Dieu? Est-ce que nous agissons dans la volonté, dans la mission que Dieu a voulu pour son image? La mission de Dieu. Je rentre pas à fond dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer de manière globale que la mission, quelque chose qui, on va dire transcende, mais qui coule à travers toute la Bible. Éphésiens 2, des versets 6 à 7. Je lis le début, mais c'est plutôt la fin qui va nous intéresser. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec les Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Dans quel but il l'a fait? Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa gloire qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Dieu ne nous sauve pas juste pour nous sauver, nous rappelle ce texte. Bien sûr, il est content de nous sauver. Mais il a un objectif encore plus grand que juste vous et moi, de sauver tout le monde entier. Il l'a fait afin de démontrer la richesse de sa grâce, l'extraordinaire richesse de sa grâce. J'avais déjà dit dans une autre prédication, c'était assez difficile à dire, et c'était assez fort comme mot. Il ne dit pas « je vais vous faire connaître juste la richesse de sa grâce », mais il rappelle l'infini de l'infini de l'infini. Quoi. C'est un peu ça l'idée. Dieu veut montrer qu'il est bon envers tous les hommes. Pour les hommes d'aujourd'hui, pour les hommes de demain, pour les hommes d'après-demain. Dieu nous a sauvés dans le but d'être visible, de montrer qui il est. Ça implique, quelque part, qu'on doit des fois sortir de nous-mêmes, premièrement, et des fois sortir un peu plus que de nos murs. On a chanté tout à l'heure, c'est par l'amour les uns envers les autres que le monde verra qui est Dieu. C'est par notre unité que le monde verra qui est Dieu. L'unité seule chez soi. C'est déjà pas mal si on est unis en soi-même, hein. C'est rassurant, mais quand même, si on peut aller un peu plus loin, c'est encore mieux. Que nous raconte globalement la grande histoire de la Bible ? La Bible nous raconte une histoire, celle de la mission de Dieu, par le peuple de Dieu, qui s'engage dans le monde de Dieu pour délivrer l'ensemble de la création. La Bible, c'est le récit d'un Dieu qui a un dessein et qui a pour mission d'accomplir ce dessein de façon universelle, en englobant le passé, le présent, l'avenir, Israël et les nations, la vie, l'univers et tout le reste. Récit dont le centre, la visée, le point culminant et l'accomplissement est Jésus-Christ. Vous verrez cette citation de Christopher White dans son livre de la mission de Dieu, qui est dans la bibliothèque, si vous voulez le lire. Il est un peu gros, mais prenez le temps de le lire. Et pour continuer à vous persuader que la mission est importante, je vous rappelle ce texte que j'avais un peu teasé, que je l'avais proposé déjà il y a 2 semaines. J'avais dit que je reviendrais dessus cette semaine. Vous vous en souvenez, bien sûr. Je veux vous le relire. Je l'avais cité, je ne sais pas si vous vous souvenez le contexte, hein. C'était pour dire que la prière faisait partie intégrante de la vie du chrétien, et tout comme l'équipement du soldat était important pour avancer en tant que chrétien, la prière faisait autant partie de l'équipement du soldat. Et il y a quelque chose d'assez surprenant dans ce texte. Je vais vous le relire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quelque chose d'assez surprenant. Il est question de tenir ferme pour résister dans le jour mauvais, tenir ferme contre les attaques du diable. Et dans les équipements pour tenir ferme, il parle des chaussures pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça vous surprend. En quoi avoir des chaussures pour annoncer la bonne nouvelle me permet de résister contre le diable, contre les jours mauvais ? Surprenant. Mais dans ce cas-là, il faut se demander quelle est la mission ? Quel est l'objectif du chrétien ? Si mon objectif en tant que chrétien, c'est de rester assis dans une église et à prier, je ne sais pas si vous avez déjà vu les dessins de Alain Rodercé, des fois vous voyez des gens qui sont dans une église, qui sont en forme d'arbre, et qui ont des racines tellement profondes qu'ils ne bougent plus de l'église, et derrière, à l'extérieur de l'église, c'est le chaos total. Si on pense que l'objectif du chrétien, c'est ça, rester assis dans une église, il faut m'expliquer ce verset, parce que je ne le comprends pas dans ce contexte. Si l'objectif du chrétien, c'est de rétablir la relation entre l'humanité, entre les hommes et Dieu, alors je comprends mieux ce verset. La mission du chrétien est de tout faire pour établir la relation entre les hommes et Dieu, la rétablir et de la protéger. Ce n'est pas seulement juste de faire une connexion avec une ficelle entre Dieu et les hommes, si vous me permettez l'image comme ça, mais c'est de construire, de faire que ce soit une grosse corde pour de bateaux, de la faire grossir de plus en plus, pour tenir ferme quand il y aura des tempêtes. Vous voyez bien que les petites barques sur la mer, des fois, ça ne marche pas très bien. Avec des gros bateaux, ça marche un peu mieux. C'est de tout faire pour rétablir cette relation avec Dieu et pour faire en sorte qu'elle tienne dans le temps, et donc de la fortifier, de la faire grandir. Ça, on le fait souvent mieux que la première partie. C'est ce qu'on va appeler la sanctification, la croissance, la maturité. Ça, on a compris, on le fait mieux. En tout cas, on est plus sensible à ça. Mais Paul nous rappelle que d'annoncer l'Évangile fait partie de l'armure du chrétien, de l'équipement du chrétien, fait partie de tout chrétien. Et je trouvais ça toujours surprenant de chanter « Nous annonçons le roi, nous proclamons ». Mais des fois, je me dis « Mais en fait, le « nous », c'est qui ? C'est nous, l'Église, ou c'est nous, moi, inclus ? Ou c'est l'entité Église ?» Je me pose la question quand on le chante. La mission du chrétien est de tout faire pour établir la relation entre Dieu et les humains et de la faire grandir. La mission du diable est de tout faire pour nous détourner de Dieu. Et ça peut prendre plusieurs formes, suivant nos cultures, nos personnalités. Il connaît nos leviers, il connaît ce en quoi nous sommes sensibles et ce qui peut nous être détourné de Dieu. Il faut qu'on reste accroché sur notre mission de rétablir la relation entre Dieu et nous, et de la tenir et de la tenir ferme. Comment ça se passe ? Je répétais des choses que vous connaissez très bien. En étant présent dans le monde, en étant sa lumière, en se revêtant de l'équipement du chrétien, avec les chaussures pour annoncer la bonne nouvelle, pour tenir ferme. Et comme je le disais, tous les équipements sont nécessaires et indispensables. On ne peut pas trop les négocier, ils sont là, il faut tous les prendre. En prenant soin de notre relation avec notre Père, en fortifiant ce lien qu'on a créé, continuons de se fortifier en s'émerveillant de qui il est, en mesurant son amour, en s'encourageant les uns les autres. Voilà notre mission, pour vous comme pour moi. Vous êtes des missionnaires, que vous le vouliez ou non. La mission, ce n'est pas forcément partir au loin. C'est un peu le vocabulaire qu'on a généralement. La mission commence là où nous sommes, dans notre maison, dans notre quartier, dans notre travail, dans notre ville, dans notre pays. Quand Jésus rappelle que nous serons ses témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est en Judée, c'est chez nous, en Samarie, un peu plus loin et encore plus loin. Et je vous rappelle la prédication de Philippe il y a quelques temps. Je ne me souviens plus combien de temps. Et vous allez me dire, mais je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas les compétences pour faire ça. J'aime bien l'exemple de Philippe et de Nathanaël, où Philippe va dire à Nathanaël, au début de l'évangile, de Jean, il va lui dire « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth ?» Philippe répond « Viens et vois. » Philippe vient de juste de découvrir qui est Jésus. Il ne sait pas trop réellement. Il n'a pas de discours théologique ou de gros discours bibliques. Non, il dit « Moi, j'ai fait un truc sympa. » J'ai vécu une rencontre, une bonne rencontre, et que je pense que c'est celle-ci la bonne. Viens et vois, et après tu verras. Une personne de la Fédération Baptiste, il me semble que c'était Pierre Josch, dans un article dans les cahiers de l'école pastorale, il parlait, nous parlons de qui est Dieu à la mesure de notre connaissance de qui il est. on parle de qui est Dieu avec notre maturité qu'on a aujourd'hui. Et il dira plus tard, il faut se former. Ok, j'ai pas toutes les réponses, mais il dit se former. Se former à la hauteur de notre formation, je dirais académique, de notre formation classique, de notre exigence peut-être qu'on aura dans la vie de tous les jours. Si vous êtes pointilleux dans votre vie personnelle, soyez aussi pointilleux avec Dieu. Si vous vous demandez quelque chose d'assez rigoureux comme démonstration dans votre travail ou dans votre vie, le soyez aussi avec les choses de Dieu. Il dit, des fois, on a des gens très intelligents dans un domaine, mais quand il s'agit de la Bible, ils ne veulent plus réfléchir. Ou qu'ils ont pas, ils sont bizarres, quoi. Ils ne s'imposent pas la même rigueur avec Dieu qu'avec le monde ou leur vie globale. Il nous rappelle de nous former et de nous former à la hauteur de notre rigueur, de manière normale, de nos personnalités. Il existe plein de choses pour se former. Vous verrez dans la bibliothèque, il y a plein de livres intéressants. Je vous parlais de la mission de Dieu, ou la mission d'EI, je ne sais plus c'est quoi le titre exact, mais c'est Christopher White, je peux vous montrer, il est rouge le bouquin. Il y a plein de livres. Là, j'ai fait acheter quelques bouquins pour l'ouverture au niveau de la foi et le doute, sur l'approche du christianisme avec l'islam. Et je vous les proposerai. D'abord, je voudrais vous proposer pour en faire un sommaire dans le bulletin. Se former, lire, mais en tout cas, prendre le temps pour ça. Et puis réfléchir à notre mission, à notre rôle en tant que chrétien. Et une dernière chose que j'aime dire, c'est que l'évangélisation provoque la sanctification. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est plus vous allez grandir avec Dieu, plus vous allez vous mettre à part dans votre manière de vivre, dans votre manière de penser, plus vous allez provoquer des questionnements autour de vous, et plus vous allez plus ça va vous permettre de témoigner, et plus vous allez témoigner, plus les gens vont vous poser des questions, et plus, comme vous n'avez pas forcément de réponse, plus vous allez chercher à vous enraciner en Dieu, et plus vous allez grandir avec Dieu. Je le vois à travers la mission, à travers les étudiants, que certains étudiants ont des questions que je ne m'étais jamais posées, ou des fois où j'ai une position pas très stable, une conviction pas très forte, je veux dire comme ça plutôt. Et les étudiants me poussent à avoir une conviction un peu plus certaine de ce que je pense. Et l'évangélisation provoque ma croissance. Et si vous n'avez pas forcément envie, au moins ça devrait vous donner envie de croître avec Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à changer notre regard, notre rôle en tant que chrétien. Demandons-lui de nous faire prendre conscience que c'est une bonne nouvelle que nous apportons. Il n'y a pas d'autre chemin. Peut-être aussi en prenant plus conscience de qui nous sommes, de notre état de pécheur vis-à-vis de lui. Comprendre toujours plus son amour, et c'est la prière de Paul. Et que Dieu nous donne toujours plus d'amour pour nos prochains. Je vous invite à un temps de silence. Seigneur notre Dieu, tu vois que nous avons beaucoup d'efforts encore à faire Et peu importe où nous en soyons avec cet état de missionnaire, nous avons toujours des progrès à faire. Bien souvent, peu importe où nous en sommes, nous pensons plus à nous qu'aux autres. Nous pensons plus à notre croissance avec toi plutôt que la connexion entre les hommes et toi. Seigneur, on a besoin de se souvenir encore aujourd'hui que c'est le monde, l'humanité que tu veux sauver et pas seulement nous, pas seulement moi. Nous avons besoin de prendre conscience que tu aimes tout le monde et que nous devons aimer tout le monde et que nous devons agir aussi par compassion parce qu'ils n'ont pas de repères, parce que leur chemin n'est pas le bon. Seigneur, que tu puisses encore nous remplir de ton esprit, nous donner peut-être l'assurance, comme Paul le demandait, d'annoncer ton évangile avec confiance. En tout cas, Seigneur, nous te prions encore de nous aider sur ce chemin. Et nous te remercions encore une fois de ce qui nous a permis de te connaître, ce qui nous permet aussi de partager cette mission qui est la tienne. Amen.